Lizzie présente Néo, livre 2, Les deux châteaux, de Michel Bussy, lu par Damien Viteka. À Malou. Saison 1, l'été. Chapitre 1, le camp de la sorcière. Les 30 soldats continuaient de progresser dans l'obscurité en rampant parmi les sapins. Les épines éparpillées dans le sable leur piquaient les mains. Aucun n'avait pensé à prendre de gants. Ils s'en fichaient, serrant chacun son beau entre ses poings. Ils étaient entraînés à ne pas se plaindre à la première égratignure, même s'ils enviaient les archers restés debout derrière eux, à l'abri des troncs, flèches pointées en direction de la vingtaine de cabanes dont on voyait les toits de bois briller sous la lumière des torches. Hakan fut l'un des premiers à atteindre la lisière du désert. Il épousseta d'un revers de main les quelques épines restées collées à son bras ou ses cuisses. Pas de danger qu'elles le blessent, il avait la peau trop dure pour cela. Depuis un an, il avait encore grandi et forci. À 14 ans, même s'il n'aurait 14 ans comme tous les autres qu'à minuit, il mesurait près d'1m80 et dépassait de loin n'importe quel autre ado du château. Même Jean d'Arc, le soldat qui dirigeait le commando et qui avait pris lui aussi 10 bons centimètres en 12 mois. La troupe s'arrêta, invisible, sous l'ombre des derniers arbres. Elle était composée d'autant de garçons que de filles, mais surtout d'autant de soldats du château que du tipi. Depuis la fin de la trêve, presque tous les enfants du tipi avaient accepté de suivre des cours, et la plupart avaient choisi d'intégrer le pavillon des soldats. Au point qu'on avait dû organiser des sélections et refuser les candidats les moins doués pour la course, le saut, le maniement du bow, et avant tout, les moins capables d'obéir sans discuter à une autorité. Un grand feu au centre du camp éclairait la vingtaine de cabanes. La pleine lune au-dessus du désert colorait le sable d'un reflet orangé, comme si chaque grain avait été peint. Hakan, toujours tapi dans la pénombre, reconnut dans les rangs des soldats le chapeau de Wayne, les franges de la veste indienne de Cheyenne, les lunettes noires relevées sur le front d'Elios. Novak se tenait en retrait, commandant la dizaine d'archers, tous en position de tir. Devant eux, le camp était silencieux. Il n'avait plus que quelques minutes à attendre. L'attaque serait lancée au premier dong annonçant le début du Burst Day. Si loin du château, il n'entendrait pas la cloche du sanctuaire, mais Mook, posté derrière les archers, frapperait son tambour dès que le ciel s'illuminerait. Le feu d'artifice serait tiré du dernier étage du tipi pour qu'on l'aperçoive jusqu'à des kilomètres de Paris. Pour l'instant, tout était calme. Le village de la sorcière semblait presque vide. Sans doute la majorité des occupants l'avait-il abandonné pour quelques heures, le temps de s'installer sur la plus grande dune et d'admirer le spectacle du ciel éclairé. Aucun ado, même s'il avait rejoint le camp de Bill et Mordelia, ne pouvait rester insensible à cette cérémonie d'anniversaire. C'était leur plus beau et leur plus ancien souvenir, du temps où le soleil de fer veillait encore sur eux et illuminait la ville de ses éclairs. Quand le conseil avait voté l'expédition contre le camp de Mordelia, le choix de la meilleure date pour l'attaque avait été discuté, et le soir du birthday s'était imposé comme une évidence pour bénéficier de l'effet de surprise.
« Il y aura ainsi le moins de victimes possible », avait affirmé le conseiller Ogénor pour convaincre les plus modérés.
« Le moins de victimes possible », répéta Hakan dans sa tête. Quelques rares ombres qu'il peinait à reconnaître traînaient entre les cabanes. Dans moins d'un quart d'heure, le camp serait pris d'assaut par 30 soldats. Qu'en resterait-il ensuite? Hakan découvrait pour la première fois ce repère que tout le monde au château appelait le camp de la sorcière. Il était impressionné par le travail accompli par Mordelia et Bill en un an.
ce refuge aurait pu tout aussi bien être nommé le ranch de la sorcière, ou la ferme, le moulin, l'oasis. Selon les savants, ce lieu choisi par Mordelia s'appelait la mer de sable. Une curiosité géologique aux portes de Paris, un petit désert de sable caché au milieu d'une vaste forêt. Le camp était organisé en différents cercles, parfaitement identifiables malgré la faible luminosité. Mordelia avait dû en dessiner le plan avec précision. Le cercle le plus large était constitué d'un enclos de bois où des animaux mi-domestiqués, mi-sauvages cohabitaient. Cochons, sangliers, biches, veaux, chèvres, moutons. Au milieu, une vingtaine de cabanes étaient posées sur le sable, toutes taillées dans les pins alentour. Un vaste espace central s'ouvrait entre les cabanes, occupé par le feu, un puits, un four de pierre et une éolienne perchée sur trois poutres disposées en trépied. Elle devait fournir de l'électricité les jours de vent, à en croire les fils qui pendaient de l'édifice. Akane trouvait l'agencement du camp incroyablement ingénieux. Certes, il avait appris depuis un an, en fréquentant les savants et en supervisant les travaux de modernisation du tipi, ce qu'était l'électricité et comment on la produisait avec du vent, de l'eau ou à la force des bras et des jambes. Mais il aurait été bien incapable de construire une dynamo, une turbine ou même simplement de tresser un fil conducteur. Mordelia, elle, en avait été capable. Seul ou presque. Jeanne d'Arc, comme les autres soldats, guettait le ciel, impatient que soit tirée la première fusée du Birthday et que sifflent les premières flèches. Seul ou presque, continuait de penser Akane. Il y a un an, après la bataille de la cour carrée, Bill, dans son ridicule costume de tigre, avait été le seul à suivre Mordelia. Pendant de longues semaines, aucun enfant n'avait eu de nouvelles d'eux, ni au château, ni au tipi. Puis, petit à petit, la rumeur avait enflé. Mordelia n'était pas partie. Elle habitait tout près de la ville, au milieu de la forêt. Elle construisait un nouveau village pour accueillir tous ceux qui le voudraient. Par exemple, les ados du tipi, qui n'avaient pas envie d'être commandés par un chef incapable de se battre, ou par un garçon inconnu cloué dans un fauteuil roulant, ou encore par une reine portant des roses sur la tête. En résumé, elle était prête à offrir l'hospitalité à tous ceux qui ne voulaient pas finir enfermés sous une pyramide de verre et qui avaient compris qu'ils ne seraient jamais traités comme les égaux de ceux du château. Tous ceux aussi qui croyaient encore à la magie de Mordelia. Et ils étaient nombreux. Alors, un par un, certains ados l'avaient rejointe. Certains avaient fui après une dispute, parce qu'ils n'avaient pas supporté une punition votée par le conseil. Ils avaient préféré retrouver Mordelia dans la forêt plutôt que de passer quelques jours dans la prison de la conciergerie. D'autres étaient tombés malades, un simple nez qui coule ou un mal de ventre, et comme ils ne croyaient pas aux discours compliqués des savants, toutes ces histoires de microbes invisibles ou de médecine par les plantes, ils s'étaient souvenus que Mordelia, sans un mot de trop, avait toujours été capable de les guérir avec ses pilules miraculeuses. Plusieurs enfants du château avaient eux aussi décidé de tenter l'aventure, attirés par le mystère entourant la sorcière. Abou, le musicien. Flabel, la spécialiste des herbes et des champignons, Fanfan la savante, passionnée de sciences occultes. Augénor avait trouvé un nom pour désigner ceux qui quittaient le tipi et le château pour rejoindre le camp de Mordelia, les moineaux. Il l'avait choisi parce que ses ados s'envolaient, bien sûr, et aussi parce qu'ils étaient souvent les plus faibles, les plus fragiles. Mais ce nom rappelait surtout que, quand on les croisait dans les rues de Paris, ces moineaux étaient tous vêtus de gris, comme des petits moines. Ils volaient pour leur survie, ramassant tout ce qu'ils trouvaient, fruits, bois, fer, verre, puis filaient l'offrir à Mordelia au centre du camp, au pied de son totem. Akane plissa les yeux pour mieux distinguer, dans les ombres dansantes du feu, les détails du plus grand monument planté dans le camp. Une statue de femme de plus de 10 mètres, qui s'élevait bien plus haut dans le ciel que l'éolienne. Elle rappelait à Akane la statue de la Liberté, sur l'île aux Cygnes, devant le tipi,